en coloc. Une retransmission proposée par Canal Academy.
Il y a 100 ans, sur l'île de Thasos, au nord de la mer Égée, l'école française d'Athènes entamait méthodiquement des fouilles archéologiques. Un siècle a passé, l'heure du bilan a sonné. Pour célébrer ce centenaire, un colloque a été organisé le 24 juin 2011 au palais de l'Institut, sous le haut patronage de l'Académie des inscriptions et belles-lettres. Ce qui n'est sans doute pas un hasard, car nombreux furent les membres de l'école française d'Athènes, fondée en 1846, qui rejoignirent la compagnie du Quai Conti. Correspondant de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, directeur de l'école française d'Athènes jusqu'en juin 2011, Dominique Muliez revient dans sa communication sur les principaux résultats des campagnes de fouilles successives et, ce faisant, fait revivre la mémoire des hommes qui participèrent à cette aventure.
Chacune des communications présentées au cours de cette journée consacrée à ce centenaire des fouilles de l'école française d'Athènes sur l'île de Thasos est comme le reflet d'une œuvre collective, et la mienne l'est plus que toute autre, qui s'efforce de retracer en quelques minutes ce que fut l'œuvre de plusieurs générations de chercheurs. Le temps qui m'est imparti ne me permet certes pas de remonter aux premiers voyageurs et au séjour qu'effectuèrent sur l'île de Thasos Buo del Monti en 1419 ou Cyriaque d'Ancône en 1444-1445, ce dernier procurant la première véritable recension savante sur l'île. J'ai strictement limité mon propos aux recherches de l'école française d'Athènes qui commencèrent en 1856. Cette année-là, précédant Alexander Konz de 2 années, Georges Perrault, membre de l'école française d'Athènes, entreprit un voyage d'études à Thasos dont il publia les résultats en 1864 dans son mémoire sur l'île de Thasos. Toutefois, le temps d'une fouille et surtout d'une fouille systématique n'était pas encore venu, et pendant le demi-siècle qui suivit, les membres se contentèrent de voyages d'études dans une île où les trouvailles fortuites de sculptures et d'inscriptions étaient courantes et enrichissaient les collections du gouverneur égyptien Toussounbé ou de M. Voulgaridis, vice-consul de France à Kavala, ou encore ornaient les salons du gouverneur de Liménas ou la maison de la famille Economidis, quand n'était pas purement et simplement brisé pour servir dans les constructions. Au dire de Salomon Renac, un seul homme à Thasos, le docteur Christidis de Panaïa, représente alors les traditions de l'hellénisme et le culte du passé et accueille avec une générosité répétée les jeunes chercheurs de passage. Salomon Renac, dont j'ai déjà mentionné le nom, qui fait un séjour à Thasos au début de l'année 1882, André de Rieder en 1892, puis Paul Perdrisé et Gustave Mendel en 1896 effectuèrent des séjours dont ils tirèrent des articles. Quant à Valdemar Deona, membre suisse, il effectua de son côté une visite en 1907, au cours de laquelle il réalisa notamment plusieurs clichés de l'île qui sont demeurés célèbres et qui sont conservés à Genève. Le potentiel de l'île n'avait certes pas échappé à ses pionniers. Dans le récit de son voyage, Salomon Renac écrit que Thasos est un des points où des fouilles sérieuses auraient le plus de chances de réussir, mais, ajoutait-il, il y aurait à compter avec la cupidité des habitants et surtout avec le mauvais vouloir des fonctionnaires égyptiens qui avaient alors en charge l'administration de l'île. De fait, l'école française d'Athènes avait bien tenté d'entreprendre des fouilles, probablement dans les années 1870, mais le Khédive répondit par un refus à la suite d'un rapport d'Ecomodo et Incomodo que lui adressa le gouverneur de l'île, Toussounbé. Durant le demi-siècle qui sépare le voyage de Georges Perrault et celui de Charles Picard et Adolphe-Joseph Renac, seuls quelques sondages ponctuels eurent donc lieu sur l'île. Ce fut en 1864 Emmanuel Miller qui fouilla ce qu'il appela la grande chambre de Thasos, en l'occurrence le passage des Théors, dont il exhuma les reliefs et un certain nombre de blocs inscrits, aujourd'hui conservés au musée du Louvre. En 1886-1887, James Theodore Bent fouilla lui aussi à Liménas et en particulier dans le secteur de l'arc de Caracalla, mais aussi à Aliki. En 1910, Charles Picard et Adolphe-Joseph Reynac entreprirent à leur tour un voyage en Chersonèse et dans l'archipel Thrace. Les archives de l'école française d'Athènes conservent deux carnets liés à ce voyage. Le premier est constitué d'un ensemble de relevés et d'inscriptions ou de fragments sculptés, principalement en provenance de Thasos. Dans le second de ces carnets, Adolphe-Joseph Reynac relate d'une écriture souvent difficile à déchiffrer toutes les étapes de plusieurs excursions qu'il fit dans l'île de Thasos entre le 28 juillet et le 1er août 1910. De retour de ce voyage, effectué l'année même où furent dégagées par Macridibé les 7 statues féminines de l'Artémisione, Charles Picard convaincut le directeur de l'école, Maurice Hollot, de l'intérêt qu'il y aurait à commencer à Thasos une exploration méthodique. Les démarches furent entreprises et l'île étant retombée sous administration ottomane, l'autorisation de fouiller fut accordée pour 2 ans par un firman en avril 1911 et la première campagne de fouilles eut lieu dès les mois de mai et juin de la même année. La rapidité de l'intervention laisse deviner l'impatience du fouilleur. Elle est aussi la conséquence même des conditions qui leur sont imposées. Les fouilles, en effet, devaient impérativement commencer dans un délai de 3 mois à compter de la date où était délivré le permis. On devine, à travers les rapports et les archives, les difficultés inévitables à toute entreprise de ce genre à ses débuts, mais auxquelles s'ajoutèrent la situation politique de l'île et surtout le morcellement des propriétés. Il fallait en effet à la fois négocier avec le khédive égyptien pour les wakoufs, solliciter les couvents de Latos qui possédaient des terres sur l'île. Enfin, il fallait passer contrat avec les propriétaires privés, ce que les fouilleurs semblaient avoir d'abord négligé. Malgré des campagnes relativement brèves, quand on les compare évidemment à celles qui avaient précédé à Delphes ou à celles qui avaient cours à Délos, les années 1911 à 1914 furent des années d'intense activité. En 1911, Charles Picard, Adolphe-Joseph Reynac, Charles Avzou et Gustave Blum commencèrent par explorer les zones où des vestiges étaient encore visibles. Le long du rempart, à la porte de Sotas, à la porte de Zeus, mais aussi à la porte d'Héraclès et à la porte du Silène, à l'Athénaïon, alors identifié comme le temple d'Apollon, à l'arc de Caracalla, qui avait été reconnu lors des fouilles de James Theodore Bent, et à l'Artémisione. En revanche, les tentatives pour retrouver l'emplacement de la fouille d'Emmanuel Miller demeurèrent vaines. En 1912, Charles Picard et Charles Avzou reprirent l'exploration de la porte du Silène et de l'arc de Caracalla, entreprirent quelques sondages dans un quartier d'habitation privée, explorèrent le Téménos dit de Makalla et le sanctuaire d'Arcouda, mirent au jour la salle hypostyle et identifièrent enfin l'emplacement de la fouille d'Emmanuel Miller. Désormais, on ne parle plus de Théorion, mais de l'entrée monumentale d'un autre édifice. En 1913, les recherches archéologiques, note Charles Picard, n'ont point été interrompues par les guerres balkaniques qui permirent au royaume hellénique d'augmenter son territoire et en particulier de recouvrer l'île de Thasos. Durant cette année 1913, on procéda à des relevés, on poursuivit les fouilles sur le rempart, à la salle hypostyle et dans ce qui est désormais considéré comme l'entrée du Prytanée. Dans le voisinage de l'église Saint-Nicolas, enfin, on mit au jour ce que l'on prit pour les premiers vestiges de l'Agora. Il faut ensuite parler des années 1914-1920. En 1914, les travaux furent interrompus le 3 août par la guerre, et 3 des 4 fouilleurs de la première heure y trouvèrent la mort, Adolphe-Joseph Reynac, Gustave Blum et Charles Avzou. Mais comme s'il fallait à toute force exorciser cette cruelle parenthèse, les travaux qui reprirent en 1920 furent présentés comme la suite immédiate de ceux de 1914, au point qu'ils firent l'objet d'un seul et même rapport continu. En dehors de quelques sondages, les travaux effectués durant ces deux campagnes, 1914 et 1920, portèrent principalement sur quatre secteurs. À l'acropole, où les contrôles effectués en 1914 eurent surtout pour objectif de réviser et corriger les observations de Friedrich et Becker-Peinor, les travaux permirent une importante découverte, celle d'un colosse archaïque dont les morceaux brisés, mais prêtant à l'ajustage, ont été retrouvés encastrés au pied de la fortification. Ces éléments ne furent dégagés qu'en 1920, descendus péniblement sur les pentes de l'acropole dans un charroi que tirait un attelage de bœufs, et l'ensemble de la statue reconstituée au sol fut ensuite remonté en 1923 devant ce qui était alors le musée de Thasos. Au rempart, la porte d'Hermès, repérée dès 1913, fut dégagée en 1914. On repère aussi la porte maritime et on nettoie les alentours de la porte de Parménon. Par ailleurs, les fouilles de 1914 et de 1920 précisèrent sur quelques points l'histoire du Prytané et surtout permirent de localiser l'agora hellénistique. Le portique sud est partiellement dégagé, ainsi que le portique est, mais dans une topographie encore tâtonnante, l'édifice à Paraskénia est identifié comme un petit temple et la partie supérieure du cénotaphe de Glaucos comme la fondation d'une grande base. Enfin, en 1920, le théâtre fait l'objet d'une première exploration systématique. À bien des points de vue, l'année 1920 constitue une date charnière. Même si son ombre tutélaire plane encore sur les fouilles, Charles Picard, devenu directeur de l'École française d'Athènes, ne participe que pendant 2 semaines à la campagne de 1920 et une nouvelle génération de chercheurs fait son apparition. Il vaut dès lors de suivre l'évolution de la recherche, non plus par année, mais par grand domaine topographique. En commençant par les espaces publics, parallèlement à la fouille du théâtre qui se poursuit, la fouille dégagea entre 1920 et 1923 les abords et le pourtour de l'agora. Peu à peu, on prit et on put donner forme à cette agora et l'on voit dans les plans successifs qui sont publiés d'abord en 1920, puis en 1921 et 1922, on lit, on mesure les progrès de la fouille. Progressivement, entre les années 1939 et 1954, c'est la partie centrale de l'esplanade qui fut fouillée avec des moyens techniques, avec aussi des méthodes qui, entre ces années 1939 à 1954, évoluèrent. Et peu à peu, on put dresser de cette agora un plan qui, à défaut d'être définitif, était assez complet et on a pu en donner pour la célébration du 150e des fouilles de l'École française d'Athènes une maquette qui en restituait l'état le plus complet possible. La fouille fut complétée entre les années 1970 et 1974 par la fouille des abords nord-est de l'agora. Durant les 20 dernières années, l'exploration de 2 secteurs jouxtant l'agora devait ensuite modifier la perception que l'on avait de cet espace. Au sud-ouest de l'agora, ce que l'on appela longtemps le quartier romain avec sa rue d'Allée, avec l'exèdre de l'Imendas, avec l'Odéon, la cour aux sandales, fut mis au jour entre 1923 et 1931. On compléta la fouille entre 1962 et 1965, mais il fallut attendre le programme entrepris en 1996 pour identifier un maquellum et surtout comprendre que le processus de monumentalisation du centre de Thasos avait concerné non seulement l'agora, mais aussi ce secteur dès l'époque hellénistique. Par ailleurs, au nord-est de l'agora, vous avez ici une vue du maquellum, au nord-est de l'agora, fut mise au jour à partir de 1981 une nouvelle place publique qui a été en usage avant même que l'agora ne prît forme. Mentionnons encore la salle hypostyle, appelée le Bouloterion dans les premiers rapports et partiellement dégagée en 1912 et 1913, et dont la fouille fut reprise en 1932, puis entre 1980 et 1982. Autre type d'espace, les espaces religieux. Dans l'entre-deux-guerres, on fouilla et on identifia plusieurs grands sanctuaires thasiens. Le Dionysion fut fouillé en 1922 et 1923. Le Poseidonion fut fouillé en 1925 et 1927. L'Héracléion en 1932-1936. Après la Seconde Guerre mondiale, on reprit les travaux au Pythion. On reprit également des travaux à l'Athénaïon et surtout à l'Artémision en 1957-60, en 1965 et entre 1975 et 1985. On reprit aussi plus tard les fouilles du Dionysion. On mena à son terme la fouille du double sanctuaire et de la double basilique d'Aliki. On explora également le Thesmophorion entre 1962 et 1964. On compléta la fouille de l'Héracléion. Très récemment encore, une inscription a permis de compléter la liste de ces sanctuaires urbains avec l'identification d'un sanctuaire d'Apollon d'Élien et d'Artémis. C'est l'habitat qui retint aussi l'attention dès les premiers temps de la fouille. Entre 1928 et 1932, on entreprit la fouille du quartier d'habitation voisin de la porte d'Hermès, fouille qui fut complétée dans les années 1950 et 1960. Un autre quartier d'habitation, celui de la porte du Silène, fit l'objet d'une exploration systématique entre 1971 et 1980. Dans le même temps, le service archéologique confiait à l'École française d'Athènes plusieurs fouilles d'urgence qui complétaient la connaissance de l'habitat de l'époque archaïque à l'époque proto-byzantine. Et tandis que s'achevaient ces fouilles, commençait celle d'une vaste demeure proto-byzantine aux abords nord de l'Artémision, entre 1979 et 1985, puis en collaboration avec les éphories des antiquités préhistoriques et classiques et des antiquités byzantines de Kavala. Les nécropoles avaient attiré l'attention des premiers voyageurs. Ils mentionnent des sarcophages d'époque romaine. Beaucoup d'entre eux furent partiellement détruits ou totalement détruits même, d'autres servirent d'abri. Beaucoup furent mis au jour fortuitement ou lors de fouilles plus systématiques de nécropoles, notamment entre 1952 et 1953. Lors des fouilles de 1952 et 1953 dans cette zone de nécropole, on découvrit également des tombes d'époque hellénistique, dont certaines organisées autour d'un véritable édifice funéraire long de 17 mètres. Toutefois, reconnaissons-le, c'est principalement aux travaux de la 18e éphorie des antiquités préhistoriques et classiques que l'on doit la fouille de la nécropole de la Plaine au cours des dernières années. À partir de la fin des années 1970, l'École française d'Athènes porta une attention soutenue au territoire insulaire de la cité dans la lignée des travaux précurseurs d'Antoine Bon, qui, le premier, entreprit l'exploration archéologique de l'île entière et le recensement des traces d'occupation ancienne. La fouille d'ateliers de potiers, en majorité destinée à la production d'amphores, et son corollaire, l'analyse et l'exploitation de milliers de timbres amphoriques recueillis, l'étude des carrières, et principalement celle d'Aliki, mais aussi celle de la côte nord-est, l'exploration des mines des métallifères, la prospection générale du territoire et l'identification d'un grand nombre d'exploitations agricoles, toutes ces données contribuèrent à dresser la carte archéologique de l'île et à dessiner les grandes lignes de son économie. À la carte archéologique de l'Antiquité classique répondit le programme d'une carte archéologique de la période byzantine. Quant à la surveillance de la ville et du territoire, elle passait pour le territoire par un réseau de tours que la prospection a fait progressivement connaître. Le rempart urbain de Liménas, quant à lui, datant du début du 5e siècle et dont les portes sculptées constituent l'une des caractéristiques essentielles, a nécessité de nombreuses campagnes d'études qui viennent de s'achever et le manuscrit est actuellement sous presse. Élément indissociable du rempart, qu'il prolonge du côté de la mer. Le port fermé a fait l'objet d'une fouille sous-marine entre 1987 et 1993. Plus récemment, on a reconnu les éléments d'une première défense plus restreinte de l'agglomération dont l'existence avait été postulée dès la fin du XIXe siècle sur le seul témoignage d'Hérodote. Certes, cette activité rapidement mentionnée ne fut pas une activité de terrain continue. Les vicissitudes de l'histoire imposèrent des arrêts parfois brutaux. Il y eut aussi des pauses que l'ouverture d'autres chantiers rendait nécessaires ou qui furent imposées par les autorités grecques. Mais il n'est presque d'années où les chercheurs ne soient venus travailler dans les réserves du musée. Un siècle de recherche effectuée sous l'autorité du service archéologique et souvent en étroite collaboration avec lui, aura nourri à la fin de l'année 2011 26 monographies et près de 200 articles. Il est peu d'aspects de la vie d'une cité grecque qui n'ait pu être étudiée, qu'il s'agisse de son cadre urbain et de son territoire, de ses institutions civiques et religieuses, de sa vie économique et artistique. Thasos a eu l'un des monnayages les plus importants du monde grec et ce qui nous est parvenu de sa production sculptée constitue aujourd'hui l'une des collections les plus significatives. Ainsi s'écrit l'histoire d'une colonie parienne fondée vers 670 et devenue l'une des cités les plus importantes de Grèce du Nord, suffisamment puissante pour contrarier les intérêts d'Athènes dans la région. S'il y eut une étape dans la poursuite de ces travaux, elle intervint en 1977. Cette année-là, en effet, une équipe franco-grecque inaugurait, je cite, « une formule d'étroite collaboration destinée à se développer ». Cette collaboration concernait l'exploration archéologique du rempart qui se poursuivra au cours des années suivantes. D'autres collaborations prendront place ensuite. La fouille du port, celle de l'atelier de Phari et de l'atelier de Chioni, la carte archéologique avec les forêts des antiquités préhistoriques et classiques, la carte archéologique avec les forêts des antiquités byzantines, la fouille du théâtre, celle de la villa proto-byzantine, ainsi que le corpus des inscriptions de Thasos. En survolant ainsi un siècle d'archéologie à Thasos, on éprouve à la fois frustration et fascination. Fascination à voir se mettre en place progressivement les pièces d'un puzzle qui donnent à voir une image d'abord énigmatique, mais que l'on reconnaît bientôt quand bien même demeurent des trous. L'exemple le plus net est celui du passage des Théors, d'abord considéré comme une chambre, mais sans porte ni fenêtre, puis comme l'entrée d'un monument, puis comme l'entrée du Prytané. Ce n'est qu'en 1954 que l'on parle du passage des Théors, ce n'est qu'en 1981 que l'on comprend que ce passage met en communication deux espaces publics, ce n'est qu'en 1999 que l'on découvre qu'il garde la mémoire d'une entrée primitive de la ville, et par là même qu'il relève du même programme architectural et iconographique que l'enceinte urbaine aux portes sculptées. Frustration, en revanche, de ne pouvoir aller plus avant dans le détail, faire connaître le mobilier mis au jour et la moisson de sculptures et d'inscriptions procurées par chaque fouille, faire connaître les archives et surtout parler des hommes, les chercheurs, bien entendu, mais aussi tous ceux qui, à Thasos, les ont accompagnés dans leurs travaux, avec des figures aussi pittoresques que celles de Polygnotlonaris, le manchot aux mille ruses, l'épistate de l'école dès les premières fouilles et jusqu'au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, ou encore la figure haute en couleur de l'un de ses successeurs, Nikos Kharitiopoulos. Je n'ai pas fait état non plus des conditions de travail, parfois rudes. J'ai cité les noms des précurseurs, je n'ai pas cité encore celui des diadoques, dont l'un, Pierre de Vambèze, véritable évergète du village tout entier, a pourtant donné son nom à une rue de Liménas. C'est que l'on voit bien surgir la première génération avec Georges Dau, Alfred Lomonier, Henri Sérigue, Yves Béquignon, Antoine Bon, Pierre de Vambèze et Marcel Launay. On voit aussi se constituer une autre génération avec Ernest Ville, Roland Martin, Jacques Tréheux, Jean Pouilloux, François Chamoux, Charles Delvoye, André Dessennes, Georges Roux, Pierre Lévesque et Christiane Dunant. Après, me direz-vous, après on entre dans le monde des vivants et à vouloir les citer tous, je cours le risque d'en oublier un. Aussi est-il plus sage pour moi de laisser la parole
C'était Dominique Mullier, correspondant de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, qui s'exprimait dans le cadre du colloque organisé le 24 juin 2011 à l'Institut, à l'occasion des 100 ans de fouilles de l'École française d'Athènes à Thasos. Vous pouvez entendre sur Canal Académie la communication de son confrère et collègue, Olivier Picard, intitulée « Comment écrire l'histoire de Thasos, l'apport de la monnaie ». Sachez que vous pourrez lire l'intégralité de ces communications dans les comptes rendus de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, à paraître en 2012.